Bonjour à toutes et à tous. C'est au nom de l'Institut Saint-Jean de la Croix de Toulouse et du Studium de Notre-Dame de Vie que nous vous souhaitons la bienvenue pour ce colloque en l'honneur du 5e centenaire de la naissance de Sainte Thérèse d'Avila, à la croisée de nos époques, une figure de la rencontre. Thérèse d'Avila nous donne aujourd'hui de nous rencontrer autour de son message toujours actuel. Après 500 ans, on est tenté de dire qu'elle n'a pas pris une ride, tant elle reste moderne, tout en restant bien marquée par son époque. Notre-Dame de Sainte-Garde, le site qui vous accueille aujourd'hui, est un site à vocation multiple, marqué par une longue tradition de prières et d'études en vue de servir l'Église. Je ne vais pas vous faire l'histoire de ce lieu, vous la trouverez sur des panneaux qui sont dans le cloître. Sachez qu'aujourd'hui, ce site accueille trois pôles, le centre spirituel de Notre-Dame de Vie, un pôle d'activité lié à la catéchèse et le studium de Notre-Dame de Vie, qui organise ce colloque avec les Pères Carmes de l'Institut Saint-Jean de la Croix, une collaboration qui nous réjouit beaucoup. Agrégé à la faculté pontificale du Thérésianum à Rome, dont nous avons la joie d'accueillir trois professeurs, notamment le Père Giordano, le studium vit et se nourrit de l'enseignement de Sainte Thérèse. Il s'efforce d'apporter sa part à la réflexion théologique suscitée par son œuvre dans un souci de dialogue avec le monde. Ces étudiants qui participent à notre rencontre préparent le baccalauréat ou la licence canonique en théologie. Ils viennent de différents pays, vous pourrez faire connaissance avec eux. Déjà en 1982, l'Institut Notre-Dame de Vie avait organisé à Venasque, à 3 km d'ici, un colloque pour le 4e centenaire de la mort de Sainte Thérèse, dont les actes ont été publiés aux éditions du Carmel. Depuis 30 ans, l'intérêt du monde universitaire pour Thérèse d'Avila n'a pas baissé. Au cours des dernières décennies, un certain nombre de thèses ont été soutenues aussi bien en Sorbonne, dans les universités publiques, que dans les facultés de théologie. Nous avons la chance d'avoir parmi nous un certain nombre de ces chercheurs qui ont patiemment exploré et mis en lumière la richesse de l'œuvre de Sainte Thérèse. Au fond, cet intérêt pour Sainte Thérèse n'est pas étonnant. Thérèse dit souvent combien le dialogue avec les théologiens a éclairé son chemin. Elle-même était une femme avide de vérité, cherchant à comprendre sa propre expérience à la lumière de la théologie, toujours en train de s'interroger. En elle s'illustre parfaitement l'adage qui définit la théologie, la foi en quête d'intelligence. Sans cesse, elle cherche à préciser les mots, à nuancer sa pensée pour être au plus près de la réalité. Elle utilise une image et puis elle la relativise, gardant cette distance critique qui est le propre de la recherche. Parfois, elle avoue humblement son ignorance, ou au contraire, elle nous exhorte à croire que ce qu'elle dit est vrai, sans perdre pour autant le sens du mystère et de la complexité de la vie. Ses fréquents dialogues avec Jean de la Croix, homme de science et de prière à la fois, l'ont aidé à clarifier sa pensée tout en gardant la vivacité de son style inimitable pour donner cette œuvre magistrale qu'est le château intérieur. Elle a reçu un charisme particulier pour rendre compte des grâces qu'elle a vécues pour éclairer le chemin ordinaire de la vie baptismale. C'est ce charisme de pédagogie qui l'a fait docteur de l'Église universelle avec un enseignement qui répond étonnamment aux préoccupations du monde moderne. Que ce nouveau colloque où Sainte Thérèse se révèle à nous comme figure de la rencontre soit aussi pour nous l'occasion de dialogues intellectuels riches, comme Sainte Thérèse les aimait, dans la diversité des approches à la recherche de la vérité. Et que le charisme thérésien porte toujours plus de fruits dans l'Église de notre temps, à la rencontre de nos contemporains. Bon colloque à tous.
Merci au Père Jean-François Lefebvre pour cette introduction au nom du Studium Notre-Dame de Vie et en tant que co-organisateur de ce colloque. Donc l'Institut Jean de la Croix, dont j'ai l'honneur d'être le directeur. Je vous souhaite également la bienvenue. J'associe immédiatement le père Pierre de Cointet, avec qui nous avons organisé ce colloque, passé bien des heures et bien des mails à échanger afin de préparer ce colloque en honneur de notre Mère Sainte Thérèse de Jésus, Sainte Thérèse d'Avila. Nous sommes donc très heureux de vous accueillir. Bien d'autres personnes vont encore nous rejoindre au cours de la journée et encore plus demain pour le week-end. Nous avons prévu ce colloque un petit peu en deux volets. Un premier volet en dialogue avec les sciences humaines, avec les sciences historiques, les sciences littéraires et les sciences théologiques, afin de pouvoir échanger. Et en particulier, l'un des grands buts que nous nous sommes fixés au cours de ce colloque, et nous espérons qu'il sera atteint, c'est celui de rendre accessible au public francophone une grande série de travaux en langue espagnole, en langue italienne, en anglais, qui, faute d'être traduits, sont de fait inconnus ou peu connus ou mal connus par le public francophone, qui parfois, entre guillemets, parfois ne lit pas d'autres langues, n'a pas accès à d'autres langues. Or, c'est fort dommageable, puisque depuis 30 ans, bien des travaux ont été faits, et comme tout le monde ne peut pas apprendre une autre langue, c'est l'occasion, le colloque, de traduire un certain nombre de choses, de faire venir des intervenants d'autres langues, afin de rendre accessible, et bien sûr, les publications des actes du colloque devraient servir à cela, et à renouveler un petit peu, nous l'espérons du moins, les études sur Thérésienne en langue française. Ce dialogue, nous l'espérons riche, il participe aussi du titre de notre colloque, une figure de la rencontre. Vous le savez bien, Sainte Thérèse est une spécialiste des rencontres, elle en a fait des centaines au cours de sa vie, aussi bien physiquement que d'une manière épistolaire ou d'une manière intellectuelle, à travers les livres, les lectures. Cette spécialité dont elle est docteur est invitée à se prolonger dans nos propres rencontres interpersonnelles, ici, au cours de ce colloque. Bien sûr, la rencontre avec Dieu, bien entendu, pour les croyants, et toutes sortes d'autres rencontres qui peuvent s'en suivre. C'est bien cette figure-là que nous souhaitons évoquer, que nous souhaitons travailler, étudier, car sa doctrine est extrêmement riche. Il y aura donc un deuxième volet de notre colloque qui commencera ce soir et qui se poursuivra donc samedi et dimanche, qui est plutôt la perspective de l'actualité de Thérèse, aujourd'hui. Comment pouvoir rendre compte de cette actualité et comment permettre à cette figure qui se trouve à la croisée des chemins, à la croisée des époques. Car en effet, le monde était en feu à l'époque de Thérèse. Nous, c'était la transition, vous le savez bien, entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Mais ceux qui vivaient ce changement d'époque ne le savaient pas, ou ne pouvaient pas, en tout cas, l'élaborer intellectuellement comme nous l'élaborons aujourd'hui. Ils avaient cette conscience d'un changement d'époque, d'un monde en feu, avec les guerres de religion, un nouveau continent, etc., etc. Je passe tous les détails qui nous seront présentés par les historiens. Eh bien, nous sommes aussi, semble-t-il, à un changement d'époque. Le continent est un continent digital, c'est une autre dimension. Nous ne savons pas exactement comment s'appellera la future époque, mais nous ne sommes déjà plus tout à fait dans l'époque moderne, et nous ne savons pas exactement dans quelle nouvelle époque nous sommes en train de rentrer. Est-ce que cette figure, Thérèse de Jésus, n'est pas là pour nous permettre cette transition, cette rencontre entre ces différents mondes? Pour ce qui est de l'Institut Jean de la Croix, plutôt que de le temps étant passé, nous avons commencé avec 4 minutes de retard. Ça, c'est mes restes suisses de mes 12 ans helvétiques. Donc, afin de ne pas prendre une seule minute de retard, je m'arrête là. Pour l'Institut Jean de la Croix, vous avez dans vos dossiers simplement ce petit rappel qui vous permet de savoir ce qu'est l'Institut Jean de la Croix, ce qu'il propose. C'est un institut digital, virtuel mais bien réel, dans lequel vous pouvez avoir accès à bien des informations. Donc simplement, ressources en ligne gratuites, un certificat de spiritualité en lien avec l'Institut catholique de Toulouse. Donc certificat d'un enseignement à distance qui semble rencontrer un grand succès, dont nous nous en réjouissons. Et puis une université d'été au mois de juillet au monastère du Broussé et bien d'autres choses comme des bibliographies spécialisées, voilà, des conférences mises en ligne, etc. Donc je vous invite évidemment à faire une bonne visite de l'Institut et à en profiter. Ce matin, donc, je transmets la parole immédiatement au président de la séance de cette matinée, le père Bernard Mainviel, historien, professeur ici, au studium de Notre-Dame-de-Vie. Et sans plus tarder, je lui cède la parole.
Voilà, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter le père Silvano Giordano, qui est italien, carme, de la province de Gênes. Il est donc professeur d'histoire de l'Église, c'est un moderniste, comprenez, un spécialiste de l'époque moderne. Il est aussi le vice-président du Thérésianum, donc cette faculté romaine, la faculté pontificale des Carmes des Chaussées, à laquelle est agrégé le studium de Notre-Dame-de-Vie. Parmi ses travaux, il y a une étude sur le père Nicolas Doria, une des grandes figures des débuts de l'histoire de la réforme thérésienne, mais il est sans doute plus connu du public français dans la mesure où c'est lui qui a dirigé le très bel ouvrage « Le Carmel en Terre Sainte » avec une très très belle iconographie. Donc merci d'avoir assumé ce beau travail et maintenant de nous donner cette communication sur la narration de Thérèse de Jésus, les tendances historiographiques récentes.
Au cours du XXe siècle, la narration par rapport à Thérèse de Jésus a suivi un chemin qui va ensemble avec les mutations des sensibilités culturelles et les changements des critères historiographiques. Les nœuds de cet itinéraire sont visibles, en particulier lorsqu'il y a des anniversaires par rapport à sa personne ou à son œuvre. Le troisième centenaire de sa mort, 1882, dans lesquels l'ordre des Carmes eut un rôle marginal à cause des conditions difficiles dans lesquelles il se trouvait suite à la suppression des religieux par les gouvernements libéraux. Le double centenaire de 1914-1915 qui signe la béatification et la naissance, les Carmes des Chaussées, particulièrement ceux d'Espagne, ont collaboré activement à cette activité qui a mis les bases pour la reconnaissance publique du magistère de Thérésien, qui a suivi peu de temps après le troisième centenaire de la canonisation, 1922. Le double centenaire de 1962-1968, qui rappelait la fondation de Saint-Joseph d'Avila et le premier couvent des Carmes des Chaux à Duruelo, le titre de docteur de l'Église qui donné par Paul VI en 1970 pour la première fois à une femme. Enfin, le quatrième centenaire de sa mort, célébré en 1982, qui a mis en évidence l'intérêt suscité par Thérèse dans des milieux pas nécessairement liés au monde religieux. Nous commençons maintenant par les écrits. La mise en valeur des écrits thérésiens semble le principal fil conducteur. Peu d'années après la mort de Thérèse, les Carmes ont confié à Luis de León l'édition de l'œuvre principale, des principales œuvres, après une initiative de Teotonio de Braganza qui a porté sur le chemin de perfection. Dans les mêmes années, Philippe II, le roi d'Espagne, a fait recueillir des autographes, aujourd'hui conservés dans ce qui fut sa bibliothèque personnelle au palais de l'Escorial. Ce sont les premiers développements d'une série d'initiatives amplement documentées par Simeon de la Sagrada Familia, qui a traversé les siècles jusqu'à nos jours. Dans ce contexte, comme effet de la moderne sensibilité vers les documents, il faut signaler la récupération des autographes. Dans d'autres époques, on en a fait une utilisation dévotionnelle et comme relique pour les écrits. Et c'est pourquoi des écrits mineurs, en particulier les lettres, ont été défaits et détruits. Maintenant, on a
au contraire fait des reproductions en fac-similé des œuvres majeures, en particulier Vicente de la Fuente et autour du centenaire de 1882. Dans le siècle suivant, comme fruit du centenaire de 1962, par initiative du général de Carmen Anastasio Ballesteros, en collaboration avec la faculté de théologie de l'ordre à Rome, on a restauré l'autographe du chemin de perfection conservé par les carmélites des chaussées de Valladolid. Et en 1965, à Rome, une version facsimilée avec une transcription paléographique et les transcriptions actualisées du texte. Plus tard, a été restauré aussi en Italie le manuscrit du Castillo, du château intérieur, qui était chez les carmélites des chaussées de Séville, reproduit après en 1990 et une seconde édition en 2011. La série des reproductions photostatiques des œuvres majeures a également la vie, captée en 1999, les fondations en 2003 et le chemin de perfection de l'Escorial en 2010, toutes effectuées avec une uniformité de critères et garanties par l'intervention du spécialiste Thomas Alvarez comme promoteur de ces diverses initiatives. Leur grande valeur ne réside non pas tellement dans la reproduction des autographes, effectué toujours avec des moyens à l'avant-garde, plutôt que la transcription des textes qui supplée en quelque sorte au manque d'une véritable édition critique. Et dans les introductions extrêmement amples qui illustrent bien la genèse de ces œuvres et les circonstances historiques dans lesquelles elles ont été produites et conservées. Au XXe siècle, il y a On a amplifié la recherche et le catalogue des écrits mineurs, en particulier les lettres, en vue d'amplifier la base textuelle dont nous avons, composée d'autographes et de copies, de témoignages, et de l'intérêt que Thérèse a suscité en Europe et en Amérique. Nous passons maintenant à la biographie sur Thérèse. Sans être complet, nous avons Mauricio Martín del Blanco qui présente une série d'œuvres avec différentes points de vue présentant Thérèse de Jésus dans les centaines d'années. Il y a en particulier la Bibliothèque mystique carmélitaine, publiée à partir de 1915, qui recueille bien des documents primitifs, dont une grande partie considérant par rapport à la béatification et à la canonisation de Thérèse de Jésus. Ce grand matériel recueilli, qui est maintenant consultable à l'Archivo Silveriano à Burgos, a constitué les bases pour écrire la première grande biographie de Thérèse au XXe siècle, qui en réalité constitue le premier des cinq volumes de Historia del Carmen Descalzo, par donc le père Silverio de Santa Teresa. Silverio se base surtout sur les documents produits à l'intérieur de l'ordre carmélitain et ses procès de béatification, et sa interprétation qui est évidemment très liée au modèle de l'historiographie baroque. Et le but principal, c'est l'exaltation de l'institution à laquelle elle appartient, en ce cas l'ordre des Carmes Deschaux. Un itinéraire analogue a eu le second biographe, celui de Efrén de la Madre de Dios. Son premier travail est lié aux fondations. Ensuite, il a fait des œuvres complètes publiées en 1951 et puis il a continué de travailler sur un double registre, l'édition des œuvres, en particulier dans la Biblioteca de Autores Cristianos et des questions par rapport à la biographie et à la pensée. Sa biographie complète a été publiée une première fois en 1968 avec la collaboration de Carme Hollandais Odgar Stinking. À l'occasion du centenaire de la mort célébré en 1982. La biographie de Efrén Stedgin est devenue l'œuvre de référence pour les aspects biographiques thérésiens. Par rapport à la biographie écrite par Silverio de Santa Teresa, elle a progressivement amplifié la documentation utilisée et elle a cherché à placer la figure de Thérèse dans le contexte historique et culturel de son temps, en se servant de la formation historique de Odger Steking. Un tournant décisif est arrivé à partir des années 1960-1990 en abandonnant en partie la large partie historiographique ecclésiastique selon les historiographies apologétiques, changeant ainsi les perspectives et devenant plus selon les historiens de profession. Concrètement, il y a les Documenta Primigenia qui ont été publiés par l'Institutum Historicum Theresianum de Rome, qui reproduit tous les documents fondamentaux par rapport aux quatre premières décennies de la réforme thérésienne, autrement dit 1560 à 1600, et par conséquent apporte des nouveaux éléments pour évaluer la personne et l'œuvre de Thérèse. Du point de vue de la méthodologie et de l'herméneutique, Le travail d'Odger Steging, présenté comme thèse doctorale à la Pontificia Università Gregoriana de Rome, constitue un exemple d'application de la méthodologie historique aux écrits thérésiens. Au moment où il étudie la rencontre entre le général de l'ordre Giovanni Battista Rossi, connu par les Espagnols comme Rubeo, et la rencontre avec Thérèse de Jésus, à peu de distance de la fondation du premier monastère de Saint-Joseph, et à la veille de commencer son chemin de fondatrice, cet érudit étudie l'œuvre thérésienne dans le cadre complexe politique et religieux de l'Espagne du siècle d'or, avec une vision beaucoup plus ample que celle qu'on avait jusqu'à ce moment-là. Les nouvelles perspectives sur lesquelles ont commencé les recherches historiques au début des années 80 sont particulièrement développées en 1982 par Teofanes Rido, un professeur à l'Université d'État de Valladolid. De là, il montre qu'il y a un second élément de nouveauté, ou plus exactement, à l'intérieur de l'étude thérésienne, arrivent des historiens qui ne sont pas forcément liés aux études théologiques ou religieuses, mais qui s'intéressent davantage à l'analyse des contextes sociaux. Introduit en France par les Annales, dans les années après la Seconde Guerre mondiale, qui ont fait école partout en Europe, et donc qui ont été appliqués à Thérèse. Et Rido analyse quelques aspects de la recherche actifs autour du quatrième centenaire de la mort de Thérèse, qui plus tard ont été explorés et approfondis. La famille de Thérèse, la manière de se situer face aux structures de la société de son époque, la condition féminine, la mentalité collective, quelle idée d'église, les aspects économiques et administratifs qui ont accompagné et ont conditionné son œuvre de fondatrice. Particulièrement intéressant, par exemple, la discussion sur l'origine familiale de Thérèse. Pour comprendre pleinement les termes de cette question, il est absolument nécessaire de parler de l'importance qu'au partir du centenaire de 1914-1915, la figure de Thérèse a eue dans l'imaginaire national espagnol. Le 28 mars 1915, anniversaire de la naissance de Thérèse, il y a donc exactement 100 ans, elle a été proclamée par le roi Alphonse XIII, fête nationale, en honneur de celle qui a été définie par les panégyriques, ornement très célèbre de la glaise universelle et la gloire la plus haute et sublime de notre Espagne. Fin de la citation. Dans les années successives, après la Première Guerre mondiale, dans un climat de renouveau du nationalisme, Thérèse est considérée comme la grande sainte espagnole, représente des plus hautes valeurs du peuple espagnol. Citation, la femme qui représente le mieux la spiritualité et la caractéristique de cette race qui ne meurt jamais. Fin de la citation. Le titre sainte de la race avait un sens culturel Et il faut le voir dans le mouvement pan-hispanique de cette époque, conséquence de l'écroulement de l'empire colonial espagnol, qui en 1918 obtient la proclamation que le 12 octobre, découverte de l'Amérique par les Espagnols et fête de la Vierge de Pilar comme fête nationale, symbole des racines communes de 20 nations sœurs unies par la même foi et par la même langue. Il n'est donc pas étonnant que les Carmes des Chaux se sont unis à ce cœur de l'aude attribuée à leur Sainte Mère. Gabriel de Jesus publie une biographie illustrée en 4 volumes avec le titre « La Sainte de la Race », avec prologue du Silverio de Santa Teresa qui raconte la vie de Thérèse jusqu'à la fondation de son premier monastère. Peu d'années après, le même Silverio de Santa Teresa a publié à son titre un livre de titre similaire, alors que la situation politique de l'Espagne était en train de se normaliser à la fin du conflit de la guerre civile. Le nouveau régime politique, qui a utilisé la rhétorique patriotique déjà existante et a présenté le mythe du siglo de oro, siècle d'or, comme référence pour la vie sociale et culturelle, et donc inclut Thérèse entre ses symboles, parmi ses symboles. Une consécration qui a eu son sommet dans la célébration du centenaire de la réforme thérésienne en 1962, organisée en étroite collaboration entre l'Église et l'État. Dans ce climat, la publication de Narciso Alonso Cortés est passée presque inaperçue, où il parle des procès de la famille Cepeda, dans lesquels il reconnaissait des membres de la famille de Thérèse, parmi lesquels le père de Thérèse, appartenait à la petite noblesse d'Avila. Ce n'est que lentement, avec le progrès des études, que les spécialistes ont mis en lumière la signification exacte de ces documents. Les discussions entre les soutiens de Thérèse comme sainte de la race faisaient qu'il ne fallait pas qu'elle ait une seule tache de sang contaminée par du sang juif ou musulman. Et ceux qui soutenaient une ascendance hébraïque, cette querelle a duré pendant 40 ans. La question a été définitivement résolue grâce à la réapparition et à la publication des actes du procès, qui démontrent comment le grand-père de Teresa, Juan Sánchez de Toledo, était un hébreu marchand converti au christianisme en 1485. Au-delà des sensationnalismes et des modes historiographiques, il y a eu une période où toute personne de la année 1500, il fallait qu'ils soient tous juifs, c'était une mode. Au-delà donc de cela, les données ont offert la possibilité de reconstruire une généalogie historiquement prouvée, mettant de côté les constructions hagiographiques mises en relief au moment des procès de béatification et de canonisation, qui bien sûr nécessitaient de montrer l'origine noble des personnages proposés à la vénération publique. Le Congrès international thérésien, réuni à Salamanque en 1982, dont s'est occupé Théophanes Ejido, a beaucoup étudié les contextes. Les données biographiques fondamentales étaient définitivement acquises. Il fallait maintenant comprendre quelle est l'ambiance dans laquelle Thérèse s'est formée et dans laquelle elle a vécu. En ce sens-là, les études thérésiennes ont beaucoup profité des progrès énormes de l'étude de l'histoire civile. L'Espagne de Charles Quint et de Philippe II, deux souverains avec des formations, des intérêts et des politiques très différentes, est le théâtre dans lequel Thérèse s'émut, avec une diachronie significative. Sa formation humaine et religieuse, dans la maison paternelle et au couvent, coïncide avec le règne de Charles Quint. Pour les Espagnols, Charles Ier. Tandis que son expérience de fondatrice a été totalement sous le règne de Philippe II. C'est significatif que le, comment les deux souverains, par rapport aux problèmes religieux, ont une attitude différente. Charles Quint, catholique convaincu, a été dans un climat de christianitas, et toute sa vie, il a essayé de rétablir l'unité religieuse de l'Empire. En écoutant les raisons des protestants et en renonçant au pouvoir au moment où il voit que ses efforts d'unité ont failli. Philippe II, tout autant catholique convaincu, une fois consommé la rupture religieuse, a essayé de préserver l'Espagne de la contagion de l'hérésie. Et essayant de promouvoir des choses qui vont influencer directement la vie quotidienne de Thérèse. Il est possible donc de voir dans les formations de Thérèse les contributions de la culture de son époque, Erasme de Rotterdam, réinterprétées par les élites spirituelles de ce sympathisant en Espagne. Les idées recevues des franciscains observants, des confesseurs jésuites, des théologiens dominicains et des très nombreux personnages avec lesquels elle aimait se rencontrer. Il ne s'agit pas non seulement d'évaluer les modalités concrètes de la vie quotidienne, un monde où les expressions de la religiosité dans lequel le monde terrestre et le monde céleste sont vécues avec une sorte de continuum, il n'y a pas de séparation. Et aussi voir comment l'expérience et la mesure du temps étaient différentes, la présence évidente du démon pour les gens de l'époque, l'intervention et la médiation constante des saints, la présence quotidienne de la mort et la communion et la communication avec le monde des défunts. Les choix politiques de la politique ecclésiastique de Philippe II ont influencé directement l'expérience quotidienne de l'Église. Thérèse connaissait clairement le rôle du pape et de l'Église de Rome et elle s'est tournée vers elle. Par des personnes interposées afin, elle a voulu obtenir les autorisations pour commencer son œuvre. Mais l'église qu'elle connaissait, celle de référence, était l'église de Castille, avec ses structures, ses coordonnées, qui dépendaient de la politique des rois catholiques Isabelle et Fernando, et qui a été consolidée par Philippe II. La phrase célèbre qu'elle aurait prononcée sur son lit de mort, enfin, je meurs fille de l'Église, très souvent utilisée et interprétée de diverses manières au long des siècles, ne peut pas détourner l'attention sur le fait que l'Église que Thérèse a expérimentée a été l'Église de Castille, gouvernée par un roi qui choisissait les évêques, gouvernait les ordres militaires et faisait la promotion de la réforme des ordres religieux. Et du coup, il a promu le petit groupe des Carmes déchaussés jusqu'à obtenir leur autonomie par rapport à l'ordre d'origine. Et Thérèse elle-même s'est adressée à ce roi dans les moments de difficulté. Aussi, le tribunal de l'Inquisition, même s'ils ont jugé bénévolement, enfin avec bienveillance, les écrits de Thérèse, fait partie de ce contexte et rentrer dans les compétences administratives de la couronne. Passons maintenant à l'ambiance culturelle. Des profondes recherches ont été faites sur l'époque moderne de l'Espagne. Représentative dans ce sens-là est l'étude de Jody Billinghoff, qui étudie la ville d'Avila entre les années 1480 et 1620, pendant lesquelles il y a une parabole de croissance et de déclin qui voit son sommet économique et démographique autour de 1570. La vie religieuse de la cité, riche d'institutions religieuses et de couvents, bien plus sans proportion avec sa population, a été soutenu par Baldomero Jiménez Duque comme l'école sacerdotale d'Avila, dont Thérèse a bénéficié parmi ses conseillers. Et Thérèse faisait partie d'un intense courant féminin, dont je cite quelques noms, Elvira González de Medina, Catalina Guerra, Maria d'Avila, Mencia López et Maria Herrera, qui, grâce à leurs conditions de veuve, ont pu employer leur patrimoine dans l'institution de Beaterios, qui ont favorisé la dévotion féminine. si aujourd'hui Thérèse est universellement connue, à son époque, elle devait partager cette célébrité avec la Santa d'Ávila, qui s'appelait Marie Díaz, morte, en 1570. De même que d'autres dames très connues à l'époque, Ana Reyes, Ana Valstels et María de Ávila, participaient au cercle de Guiomar de Ulloa, qui s'est amplifié jusqu'au cloître de l'Incarnation, qui incluait Doña Aldanza, sœur de Guillaume, et ses deux filles et sa nièce. Les publications de l'œuvre de Otter Schenking sur la visite du général Rubeo au Carmel espagnol, qui d'ailleurs n'a pas plu à ses confrères parce que cela atteignait l'image de l'ordre, et aussi avec son jugement assez dur sur les carmes de Castille de l'époque, disant qu'ils étaient sur le point de disparaître. On a permis de vérifier l'état effectif du Carmel de l'Espagne à l'époque, donc avant la réforme de Thérèse, surtout dans les marges que c'était à la marge de l'ordre, de la vie de l'ordre, la province de Castille. Les réformes de Jean Sorette et Nicolas Audet ne sont pas arrivées jusqu'à l'Espagne, et surtout en Andalousie. Les études des Carmes Balbino Velasco Bayón et Pablo María Garrido ont contribué à préciser dans quel cadre a eu lieu la formation religieuse de Thérèse de Jésus et Jean de la Croix, au-delà des polémiques qu'il y a eu tout au long du XXe siècle. Sur cette même ligne, il y a l'étude classique maintenant de Nicolas González sur le monastère de l'Incarnation et la plus récente sur le monastère de Saint-Joseph, écrite par Thomas Sobrino Chomón. Donc des études propres au monastère de l'Incarnation et au monastère de Saint-Joseph. Un autre filon d'études regarde la vie quotidienne de Thérèse et de ses moniales, qui apparaît dans la richesse et complexité du livre des fondations et dans les lettres, avec une abondante documentation et qui est étudiée depuis fort longtemps par Teofanes Ejido. Dans ce contexte, il est particulièrement intéressant d'étudier les logiques économiques et administratives dans lesquelles Thérèse, dans les dernières 20 années de sa vie, lorsqu'elle est devenue fondatrice, donc l'étude de ces documents. Thérèse, d'extraction bourgeoise, a imaginé ses fondations d'abord dans le réseau des cités de Castille, même si les circonstances concrètes l'ont mis dans les régions limitrophes à cette Castille. Le déclin économique de la Castille, qui a commencé dans ces années-là, a fait qu'elle a changé son idéal d'absolue pauvreté de début en acceptant finalement une certaine stabilité raisonnable économique. Un second aspect analysé par rapport aux conséquences économiques et administratives, c'est le nombre réduit des moniales. Dans ce sens-là, l'étude de José Antonio Álvarez Vázquez permet d'avoir une idée déjà plus complexe, même s'il faudrait que ça soit approfondi, en faisant un recours aux documents conventuels et notariales, et montre comment, dans une étude, on peut étudier à la fois les dynamiques administratives d'une communauté comme celle de Medina del Campo, seconde fondation de Thérèse, située dans sa cité, plus aussi riche qu'autrefois, comme dans les décennies précédentes, mais encore avec pas mal de possibilités économiques. Autrement dit, donc le contexte économique d'une fondation. Dans le chapitre de la vie quotidienne, il y a en particulier les relations avec les personnes. Ça fait longtemps qu'on sait toute l'influence de Thérèse sur les confesseurs, les théologiens, les directeurs spirituels. L'analyse des fondations met en relief la variété des personnes avec lesquelles Thérèse a eu des rapports de collaboration stables. Maintenant, il est bien reconnu sa propension à traiter avec la haute noblesse, conditionnée par les structures de la société de son temps. Cependant, cela ne l'a pas empêché d'avoir aussi des relations pas toujours les mêmes avec Luisa de la Cerda, Maria de Mendoza, Ana de Mendoza et la Cerda, la célèbre princesse d'Eboli. Mais elle se trouvait aussi à son aise dans la bourgeoisie, en particulier avec les marchands, une ample catégorie qui incluait les grands baquets, les modestes commerçants, dont elle était elle-même issue finalement. Elle pouvait compter sur leurs aides économiques et leur support logistique. Autour de ces fondations, il y avait le complexe monde des artisans. Qui l'aidait pour les constructions, les transports, le service postal. Par contre, le monde rural est absolument absent de l'univers de Thérèse. Maintenant, la culture. Dans les premiers paragraphes de son autobiographie, Thérèse illustre l'origine familiale de son intérêt pour la culture et pour les livres, quelque chose qui l'a accompagné tout au long de son parcours de maturité humaine et spirituelle. Même si elle n'est pas une exception au sens strict, il est clair que à son époque, il y avait beaucoup d'analphabétisme, c'était même la règle, en particulier chez les femmes. Il n'était pas prévu que les femmes accèdent aux études supérieures. Dans un travail récent, Tamás Álvarez a recueilli et systématisé tout ce que nous avons relatif par rapport à la culture de Thérèse, qui est assez composite et différenciée. Dans les premières lectures de famille, les romans de chevalerie, les pères de l'Église comme Jérôme, Grégoire, Augustin, les maîtres franciscains, jusqu'à sa formation d'écrivain. Elle a donc eu contact avec la complexité de la réalité sociale et religieuse de son temps, à travers un parcours qui a trois moments, dans lequel on peut distinguer trois moments. La longue phase de la lecture, premièrement, la confrontation avec les maîtres et son élaboration personnelle, deuxième moment, et enfin, déterminée par son expérience humaine et son rôle de fondatrice, troisième moment. Ce parcours, en fait, a été contagieux. Non seulement elle est reconnue comme l'une des principales représentantes de la langue et de la littérature espagnole de son siècle, mais elle a réuni autour d'elle un cénacle d'écrivains, dans lequel quelques noms sont bien sûr très connus dans son ambiance religieuse, Jean de la Croix, Gratien, Marie de Saint-Joseph, Anna de Saint-Bartholomé, Anne de Jésus, sur lesquels il y a une ample bibliographie et dont on a publié les écrits qui contribuent bien sûr à illuminer la figure de la fondatrice et le contexte. Je voudrais simplement rappeler ici une œuvre récente qui me semble illustrative de son originalité et qui pourrait être définie comme l'histoire littéraire du monastère de Valladolid, la quatrième fondation thérésienne qui date de 1568. Javier Burrieza Sánchez, dans un livre intitulé « Lettres déchaussées, écrivain et lectrice au Carmel de Valladolid », publié en 2015, en commençant, donc il étudie le profil littéraire de quelques carmélites déchaussées qui ont eu des rapports avec le monastère, évidemment en s'arrêtant en particulier sur certaines qui ont demeuré au monastère de la Valladolid. On peut là apprécier l'évolution d'une communauté dans laquelle, grâce à la présence de la cour, puisque donc la cour est à Valladolid à ce moment-là, on introduit l'élément noble en contraste avec les canons de l'époque. Et également la riche production littéraire, comme c'est probablement l'archive la plus riche du monastère de Carmélite des Chaussées de la première génération. Particulièrement, il y a le rôle des membres de la famille Sobrino Morillas, très liés à Thérèse et à sa mémoire. Francisco Sobrino, professeur de théologie à Valladolid, chanoine et finalement évêque, a recueilli les autographes de Thérèse de Jésus pour le compte de Philippe II. Et ses sœurs qui sont devenues carmélites déchaussées, Maria de San Alberto, et il a écrit lui-même sur des choses spirituelles. et Teresa de Jesús Vela et Petrolina de San José. Donc cette famille a été très importante pour recueillir les autographes de Thérèse. Maintenant, dernier passage, les redéfinitions des critères historiographiques. Ce passage rapide permet de voir un petit peu l'évolution par rapport à les études historiques sur Sainte-Thérèse. L'acquisition principale est probablement à situer par rapport à l'herméneutique et à la méthodologie. Cela permet d'avoir une perspective renouvelée sur les documents produits par les premiers interprètes de Thérèse. Les biographies antiques et les procès de béatification, il est possible aujourd'hui de mieux comprendre leur technique narrative, de les situer plus correctement dans leur époque. Dans les dernières années, il y a eu plusieurs nouvelles éditions, par exemple de ces anciennes biographies. Par exemple, la biographie du jésuite Francisco de Rivera, qui a été publiée à Salamanque en 1590, les souvenirs de Julián de Ávila, qui sont restés dans une archive à Ávila jusqu'au XIXe siècle, l'œuvre de Diego de Yepes, qui est devenu évêque de Tarazona, publiée en Saragosse en 1606. Les procès de béatification et de canonisation ont actuellement, qui avaient été publiés partiellement par Silverio de Santa Teresa, sont de nouveau pris en considération. Et actuellement, on attend bientôt une ample édition à charge du Carme Julen Urquiza. Du point de vue de l'herméneutique, maintenant, une note très intéressante est celle du français Antoine Rouillé. Corps et pénitence, les Carmélites des Chaussées, espagnol, de 1560-1640, publié par la bibliothèque de la maison de Velázquez en 2015, donc il y a à peine quelques mois. Antoine Roulé introduit la thématique du corps, pas très présent dans les études thérésiennes. On ne parle pas ici des maladies, un sujet qui de temps en temps est repris par les médecins et les psychologues, mais plutôt de l'une des composantes constantes de la vie ascétique, le rapport entre corps et esprit, la beauté du corps créé, et en même temps le poids du corps qui tend à freiner l'esprit. Si aujourd'hui on souligne l'humanisme de Thérèse et on cite souvent le texte de la lettre qu'elle a écrite au père Ambrogio Mariano le 12 décembre 1576, dans lequel la fondatrice s'autodéfinit comme très exigeante en fait de vertu et pas tant en fait de pénitence, on ne peut oublier son admiration pour Pedro de Alcano Antara, le franciscain, qui semblait plutôt fait de racines d'arbres en raison de ses pénitences. Je vous renvoie à Vie, chapitre 27, et les témoignages de ses disciples très plus proches qui montrent qu'elle mangeait à terre elle-même, Thérèse. Cette étude montre comment les carmélites déchaussés espagnols des premières générations, à partir de Thérèse, les pénitences physiques étaient pratiquées, même dans des formes extrêmes, et pas d'une manière exceptionnelle, jusqu'en 1620, où la législation a modéré un peu ces grandes pénitences. Le centenaire de 2014-15, donc actuel, n'a pas produit une nouvelle biographie. Cependant, quelques publications permanentes ont permis d'avoir quelques recherches. Je vous renvoie particulièrement à la bibliographie systématique organisée par Manuel Diego Sanchez, qui est indispensable pour toute étude sur Thérèse, quel que soit l'aspect étudié. Et puis également la situation politico-sociale de la ville de Ávila, dans le cinquième volume de Historia de Ávila, Histoire d'Ávila, qui s'occupe particulièrement du XVIe siècle et de ses deux fils les plus illustres de la cité, Thérèse de Jésus et Jean de la Croix, une Thérèse moins céleste et plus terrestre et mieux insérée dans son contexte politique, social et culturel, est présentée par Teofanes Ejido et Daniel de Pablo Maroto, deux historiens qui ont dédié beaucoup de leur temps aux études thérésiennes. Évidemment, toutes les références faites au cours de cette conférence seront dans la publication. Grazie.